Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Clément Beaune. Clément Beaune demande un bouclier tarifaire à la SNCF. Sous-entendu, n'attendez pas que l'État s'occupe de ce bouclier tarifaire. Il s'exprimait hier dans le grand jury RTL, le Figaro, LCI. Alors ça pose bien sûr la question de la pérennité de l'ensemble des dispositifs mis en place. Dans quelques jours, la ristourne sur le litre de carburant va passer de 30 à 10 centimes par litre. Et derrière cet appel de Clément Beaune, on voit bien qu'il y a l'idée que cette facture énergétique, elle est là, elle est bel et bien là, et il faut la partager, notamment en 2023. Alors, ce matin, Bruno Le Maire s'est voulu rassurant sur l'inflation. Ça va décélérer, dit-il, en 2023, et on va rentrer dans un niveau normal d'inflation, dit-il, en 2024. Le même ministre de l'économie se dit favorable aux dividendes salariés. C'est la grande question du partage du profit. Il la qualifie de grand chantier prioritaire de la majorité. Et il évoque la possibilité d'une proposition de loi. Thierry Breton a pris la parole de ces dernières heures pour indiquer dont les doutes qu'il nourrit autour de la bascule vers le moteur électrique et donc le fait de cesser les ventes de voitures thermiques en 2035. La date lui semble très proche. On en a déjà parlé ici. C'est totalement évident. Ce fut un choix politique, pas un choix industriel. Donc maintenant, il y a justement au niveau politique une voix qui s'empare du sujet. Et puis Bruno Le Maire craint que l'industrie européenne se fasse distancer très sérieusement par les Américains qui, vous le savez, depuis cet été, ont derrière eux le Reduction Inflation Act, cette loi qui va permettre aux États-Unis de très massivement subventionner l'ensemble de son tissu industriel, à tel point que l'on commence à redouter chez nous des délocalisations énergétiques. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, et vous avez coécrit « Une autre voie est possible vers un modèle social écologique » chez Flammarion, Champ Actuel. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole et président de la commission Mutation Technologique et Impact Sociétaux du MEDEF. Éric Ayer s'exprimait ce matin sur BFM TV, quand on est ministre de l'économie, annoncer aux gens que l'inflation ça va aller mieux en 2023 et que ce sera parfait en 2024, c'est-à-dire qu'on aurait un niveau, on va dire, normal d'inflation. Disons le niveau normal, le niveau cible de la BCE, 2%. C'est pas un peu audacieux dans le monde dans lequel nous vivons ?
Bon, c'est audacieux, mais bon, il faut tout de même faire des prévisions. On est un peu obligé d'en faire.
Et oui, mais vous dites vous-même que c'est très compliqué.
Non, mais
même
c'est très compliqué.
Pour les conjoncturistes.
Voilà, on peut dire, voilà, on n'en sait rien, donc personne parle. Alors, je pense que c'est audacieux, mais en même temps, il y a des arguments pour le dire. C'est-à-dire que, vous voyez, un argument pour le dire, mais je ne veux pas dire qu'il est juste, hein, c'est qu'on questionne des spécialistes tous les jours sur l'inflation dans 5 ans, 10 ans. Vous voyez, c'est les anticipations d'inflation des marchés pour se couvrir. Et aujourd'hui, quand vous regardez ces anticipations d'inflation, effectivement, pour la zone euro et pour la France, elles tournent aux alentours de 2,3, 2,4. Donc effectivement, c'est à peu près, on peut dire, si on devait faire une prévision la plus sûre, c'est-à-dire, ben voilà, allons vers cela. Alors ça ne veut pas dire effectivement que ça va se réaliser, mais ce que ça veut dire, c'est que globalement, aujourd'hui, l'inflation, elle est extrêmement élevée pour des problèmes énergétiques et alimentaires, et c'est le niveau des prix qui est en train d'augmenter. Mais vous voyez, il est possible que ce niveau des prix...
Voilà.
Arrête de progresser très vite. Et donc, vous voyez, je pense qu'il va falloir sortir en 2024. Je pense que ce n'est pas l'inflation qui sera importante, mais le niveau des prix.
Exactement.
Et vous voyez, si le baril reste à 100 dollars, on va dire, c'est bon, il n'y a plus d'inflation liée à l'énergie pétrolière. Mais si vous voyez, le prix du gaz est en train, et d'électricité, de se stabiliser, mais vers les 200, pas les 45 qu'il y avait avant la crise. Et donc, si tout ça se stabilise, l'inflation énergétique va disparaître en 2024 et restera plus que le sous-jacent. Et il est possible que le sous-jacent tourne autour de 2 et quelques, pour 2,5, pourquoi pas.
Le sous-jacent, c'est lorsqu'on retire les prix volatiles, notamment sur l'énergie.
Exactement, et c'est justement les salaires. Mais, vous voyez, mais ça, je pense que ça va être extrêmement important, parce que dire tout va bien quand l'inflation est à 2,
voilà.
Non, c'est attention, parce que pour les entreprises ou pour les ménages, le niveau des prix va être très nettement au-dessus d'avant crise. Et donc, vous voyez, tout ce qui est tous les petits boucliers qu'on a mis ou toutes les petites aides, on va dire, c'est bon, l'inflation a disparu, on peut les retirer. Ah non, attention, si on les retire d'un coup, on va tomber de cette marge d'escalier, puisqu'il y a un phénomène de marge d'escalier sur les prix. Donc attention, vous voyez, parce qu'on va sans doute parler des salaires. Aujourd'hui, bien sûr que le plus, à mon avis, raisonnable, et c'est compliqué de le dire, toujours raisonnable, mais c'est de dire, puisqu'on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir en termes de prix, n'augmentons pas les salaires, faisons des primes. C'est normal de faire, parce qu'effectivement, les prix peuvent baisser, et si les prix baissent, bah, les salaires ne baisseront pas, il y aura un phénomène. Donc, mettons des primes, effectivement, pourquoi pas, et dire, bah, si l'inflation continue, bah, on transformera ça en salaire un peu plus tard. Oui, mais attention, hein, c'est-à-dire que dès qu'on va dire 2% d'inflation, c'est bon, on peut supprimer les primes. Non, vous voyez, si les primes, c'est ça qui fait la différence entre le niveau des salaires et le niveau des prix, si vous enlevez les primes, ça va être la catastrophe, donc en termes de pouvoir d'achat. Et pareil pour les aides pour les entreprises. Donc l'inflation, le plus probable, c'est effectivement aujourd'hui, si on doit faire une prévision la moins risquée, c'est de regarder ce que pense en termes d'anticipation. Et on est dans ces ordres de grandeur, donc disons-le. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait parler en termes de prix. Quelle est aujourd'hui l'hypothèse de prix de Bruno Le Maire lorsqu'il fait sa prévision en termes de prix du pétrole, prix du gaz, prix de l'électricité, prix de l'alimentaire, mais de niveau ? Pas d'inflation.
C'est le côté très trompe-l'œil de cette inflation qui est une courbe, les prix une fois installés peuvent conserver dans bien des domaines leur niveau actuel. Alors il y a des domaines effectivement très fluctuants comme le pétrole. Si le pétrole baisse, oui là à ce moment-là on a un effet de recul des prix. Mais ce phénomène de recul des prix n'est pas valable pour tout. Clément Beaune, ministre des Transports, s'exprimait hier. Il veut un bouclier tarifaire à la SNCF. La SNCF prépare les esprits depuis déjà la fin de l'été sur le fait qu'il y aura des hausses de prix quoi qu'il arrive, mais probablement un peu inférieur au niveau justement de l'inflation. On ne connaît pas du tout les arbitrages que la SNCF prendra. Il y a déjà des arbitrages au niveau du TER, du côté des régions, avec des hausses de prix qui ont été annoncées, importantes parfois, plus 8% en Auvergne-Rhône-Alpes, alors limité à 2,8% pour les abonnés. Moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est que Clément Beaune dit qu'il faut un bouclier tarifaire, et il faut un bouclier tarifaire qui cible les jeunes et les plus modestes. J'ai pas l'impression que la SNCF ait vocation à faire une politique publique de redistribution. Mais au-delà de ça, Gabriel Attal déclarait dans les colonnes des Échos, c'était vendredi, que les boucliers tarifaires mis en place, c'est l'assurance vie de l'économie française. Tout récemment, Christian Poyot, on a eu le dernier étage de ce bouclier tarifaire destiné aux entreprises. Vous avez comme moi entendu qu'il y aurait 7 milliards mobilisés grâce à la captation des rentes inframarginales des groupes pétroliers, donc pour une fois pas de la dette, destinée à aider les PME, et qu'il y aurait un guichet spécifique pour les ETI et les grands groupes qui fonctionnerait au cas par cas. Est-ce que vous vous êtes dit que le compte y était ?
Bah déjà, je reprends votre expression, le dernier étage. Enfin, je tiens le mot dernier, oui. Quoi, si j'ose dire. Hein.
Chez nous, c'est alors, arrivé à la fin.
Voilà, c'est ça. Alors, on va pas dire il y a les premiers, les derniers. Il n'y a pas de, comment dire, pour moi, de priorité entre guillemets. Mais regardons ce qu'ont fait nos amis allemands. Première chose qu'ils ont fait, ils ont aidé les entreprises, si j'ose dire.
Ils sont pas très amis en ce moment, d'ailleurs.
Oui.
Terme-là. On est d'accord.
Alors, loin de moi l'idée qui est de dire qu'il faut pas aider les ménages, hein, bien évidemment. Mais c'est toujours dommage que les entreprises soient traitées en dernier. Et elles sont traitées en dernier parce que, croyez-moi, là, je parle vraiment avec ma casquette MEDEF, on a quand même tapé fortement à la porte en disant, mais vous vous rendez bien compte ce qui est en train de se passer, ou plus exactement ce qui va se passer là dans les semaines et les mois qui viennent, dans lequel ça risque d'être la catastrophe totale. De toute façon, le gouvernement a quand même infléchi sa politique là-dessus. Au début, c'était no way.
C'était non. D'accord. Absolument, c'était no way.
Et moi, je vais pas rentrer dans le débat dans les échanges qu'il y a au conseil exécutif, mais des secteurs qui ont dit, mais de toute façon, s'il y a rien, ben, les boîtes, elles vont fermer. C'est pas compliqué, hein. Si vous produisez plus cher que vous ne vendez, à un moment donné, vous produisez plus, quoi. C'est pas une menace, c'est simplement une réalité. Voilà. Donc, déjà, sur ce sujet dernier. Donc, après, est-ce que le compte y est? Pas complètement. Il y a encore des sujets qui nécessitent d'être creusés. Et comment? Et quelle durée? Etc. etc. Après, sur le point général qui a été un peu abordé par Eric Ayer, qui est de dire est-ce que tout ça va durer? Comment traiter le sujet? Etc. Oui, bien sûr, il faut dans le quart d'heure, enfin, un quart d'heure qui est un peu long, évidemment, mettre en place des boucliers, parce que sinon, de toute façon, alors autant les entreprises que les particuliers ne vont pas y arriver. C'est ce que font d'ailleurs tous nos petits copains de ce côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de l'Atlantique ou ailleurs, d'une manière générale. Donc arrêtons d'être naïfs par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe effectivement? Alors je ne sais pas si c'est 23, 24 ou 25. Comment essayer d'aborder le sujet de fond, effectivement? C'est-à-dire, en clair, retrouver la compétitivité française et européenne Et puis surtout, et donc c'est lié à ça, se défendre par rapport, là aussi, à nos amis américains ou autres, qui eux sont totalement non naïfs et qui se prémunissent par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire que nous, on a toujours l'impression que tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, et l'Europe là-dessus n'est pas assez agressive. Donc, pour répondre, essayer de répondre à votre question, est-ce qu'il faut des boucliers ? Oui. Sur les entreprises, c'est évident, sinon certaines vont fermer. Est-ce qu'on est au niveau ? Non. Maintenant, au-delà de ces boucliers qui, de toute façon, auront une durée limitée dans le temps, même si, à l'inverse, ça aide peut-être à avoir un niveau prix qui nous rend compétitif, mais Eric Ayer est beaucoup plus qualifié que moi pour répondre là-dessus, mais on est conscient du sujet. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est très mauvais, mais en fait, ça a quand même un effet positif. Mais surtout, raisonnons structurellement dans les années qui viennent. Les années, c'est à 10, 20, 30 ans, sur autant le prix de l'énergie, notre compétitivité, notre souveraineté.
Bon, alors là, vous avez soulevé plusieurs questions qui vont nous occuper. La question du partage du profit qui a été mise au. Elle a été évoquée par Bruno Le Maire il y a quelques heures, et puis la résistance de Bruno Le Maire à ce que préparent les Américains, pour le dire très clairement, ils considèrent que Joe Biden va subventionner son économie, et que du coup ils vont tranquillement nous écraser, et que les Européens vont se retrouver gros gens comme devant. Et j'ai l'impression, avant de poursuivre sur ces deux sujets, Eric Ayer, que quand Clément Beaune parle de bouclier tarifaire, quand aujourd'hui même, là sur BFM TV, Bruno Le Maire disait, bon, le quoi qu'il en coûte c'est terminé, maintenant on va cibler. J'ai l'impression que la facture arrive en fait. Et on l'a pas encore vu, la facture. Et je sais qu'à l'OFCE, vous avez décortiqué cette facture énergétique. On va commencer à la payer, là. J'ai l'impression qu'on ne va plus pouvoir avoir comme argument le fait qu'on a supprimé le signal prix. Il arrive.
Bon, il était déjà là. Vous voyez, l'inflation à 6%.
Il est là, mais...
6%, il y a bien quelqu'un qui la paye, des entreprises par les prix de production, des ménages par les prix de consommation. On voit une inflation qui est là. Donc mais c'est en fait ce coût, on essaye petit à petit de le comprendre, c'est difficile de l'évaluer ce coût, parce qu'il va y avoir le contrefactuel. Si on n'avait pas mis ces boucliers, oui. Où on en serait en termes de prix? Bon, alors voilà, le président a sa propre évaluation, 85 milliards. Nous, on était plutôt aux alentours de 75. Bon, enfin, peu importe.
Mais ces montants correspondent à 85 milliards, c'est
le coût de cette augmentation de prix pour l'économie française. D'accord. On va dire 3 points de PIB.
La Banque de France est plutôt, oui, effectivement, sur 3 points.
3 points de PIB. Donc, aujourd'hui, c'est 3 points de PIB. Donc, vous voyez, c'est vraiment une ponction, et il faut bien l'avoir en tête, c'est bien une ponction du reste du monde sur la France. Hein. Donc, c'est bien une perte pour l'économie française. Et donc, c'est la question, c'est qui doit payer ces 3 points de PIB? Et c'est trop gros pour que ce soit que les entreprises qui la payent, que les ménages qui la payent, ou que les finances publiques. Les finances publiques ne peuvent pas non plus prendre l'intégralité. Quand on essaie de voir aujourd'hui où on en est, les finances publiques, c'est-à-dire l'État, a pris plus de la moitié de ces 3 points de PIB. Donc il reste, allez, on va dire, 1,5 point pour les ménages et les entreprises à se répartir, vous voyez, entre ménages et entreprises. Qui doit payer? Et donc, vous voyez, quand on dit les salaires doivent suivre l'inflation, si on met cette indexation unitaire, si on dit c'est aux entreprises à prendre le point et demi qui reste, d'accord? Les ménages sont soit sous bouclier de l'État, soit des entreprises. Bon, c'est pas possible, on le sait. Donc on se dit, il va falloir faire une partie. Mais vous voyez, mais Christian l'a déjà un peu dit. Effectivement, les entreprises comme les ménages ont déjà été aidées pour la moitié. C'est-à-dire que dans les autres pays, vous voyez, les aides de l'État, c'était directement donner des chèques soit aux entreprises, soit aux ménages, des aides directes. Nous, en France, on a plutôt essayer de faire un bouclier pour que les prix soient plus bas. Mais quelque part, c'est une aide qu'on fait indirectement aux entreprises ou indirectement aux ménages, parce que normalement, vous voyez, dans ces négociations salariales, on commence pas à est-ce qu'il faut augmenter les salaires à 10%, comme ailleurs, c'est plutôt est-ce qu'il faut les augmenter de 6%. Donc il y a quand même déjà une petite aide qu'on apporte et qui fait quelque part un peu de, on espère, de la compétitivité au sein de la zone euro.
Est-ce qu'on arrive à le mesurer, ça?
Alors, on va le savoir au bout du compte, c'est-à-dire si les salaires normalement suivent peu ou prou l'inflation, d'accord, et c'est les coûts salariaux vont augmenter plus fortement en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, dans tous ces pays-là, qu'en France. Et donc, petit à petit, mais ça ne se fait pas en 6 mois, ces gains de compétitivité. Effectivement, ça peut aider à la compétitivité. Moi, entre nous, je n'y crois pas beaucoup, d'accord, parce que la messe n'est pas encore dite, on ne sait pas quelle
est la messe n'est pas encore dite. Oui.
Et donc, effectivement, il y a aujourd'hui la deuxième couche, je ne dirais pas la dernière couche qui arrive, avec les pays qui ne faisaient pas comme nous. Et ça, c'était un problème tout de suite. C'est-à-dire que nous, Français, on a décidé de jouer sur l'inflation, alors que les autres, c'était on donne des aides. Bon,
moi le premier, je critiquais cette façon française. Je pense qu'il y avait le signal prix. Enfin, vous l'avez mentionné, donc je reviens pas. Il valait mieux, effectivement, potentiellement donner des aides plutôt que de jouer sur les prix. Ça cassait le signal prix. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas si mal que ça,
peut-être,
de le faire. Et peut-être, que les autres pays maintenant se disent, il faut faire comme la France, d'accord. Et on va essayer de jouer aussi sur les prix. Et c'est là où ils interviennent massivement. Un peu, et donc c'est pour ça que je pense que la messe n'est pas dite, parce que vous voyez, c'est pas en 6 mois qu'on va faire des gros gains. Si les autres réactivent après et surtout mettent des montants nettement supérieurs à nous, ils vont rectifier. Et c'est, on aura gagné peut-être 6 mois, mais bon, c'est pas. Mais on aura montré peut-être l'exemple, et ça, c'est une bonne chose. Si on continue quand même 2 minutes sur le bouclier, moi je pense que c'est la bonne pratique, hein, d'essayer de dire, voilà. Est-ce que le transport pourrait être en partie moins cher pour un certain nombre de ménages? Je pense que c'est la bonne idée, plus que l'essence, d'accord. Je pense que si on enlève le TGV, je pense qu'il faut enlever le TGV de
On ne parle pas du TGV d'ailleurs.
D'accord,
là.
Parce que là, effectivement, c'est plutôt pour, on va dire la classe supérieure, mais pour ceux qui prennent tous les jours, d'accord, le train, enfin en tout cas les transports en commun, je pense que ça, c'est une aide qui est relativement bien ciblé, parce que en gros ce sont des ménages qui ont dû partir du centre-ville pour aller se loger un peu loin. On les oblige, voilà, plutôt que de subventionner l'essence, il vaut mieux subventionner les transports en commun. Et c'est ce qui a été fait en Espagne. Je pense que pour la transition écologique, c'est mieux, y compris pour le signal prix. On veut bien effectivement le casser, mais si c'est pour le casser dans les transports qui émettent moins de CO2. Donc on dit l'essence, ça va coûter cher, mais par contre vous avez une alternative qui coûte beaucoup moins cher, ça va inciter peut-être à aller plus en transport en commun. Donc moi, ça, je pense que c'est à la fois pour le court terme et pour le moyen terme la bonne stratégie. Mais attention, encore une fois, là, aujourd'hui, la facture, on l'évalue à 3 points de PIB, on sait qu'il reste à peu près 1,5 à partager, c'est énorme. D'accord. Et pour aller dans le sens de Christian,
1,5 ça fait 37 à peu près milliards d'euros. Quoi.
Voilà, exactement. Bon. C'est encore une fois, ça vient se rajouter à une situation Covid, hein, parce que là on a oublié on sortait pas des 30 glorieuses, donc on sortait d'une situation où les entreprises avaient été quand même mises à mal, même si elles avaient été aidées. Mais aujourd'hui, on est au moment où il faut qu'elles remboursent le PGE, d'accord. Et donc, ce qu'on avait évalué nous à l'OFCE, c'était que la Covid 2020-2021, il y avait une perte pour les entreprises de 60 milliards d'euros. Normalement, 60 milliards d'euros, il y a faillite d'entreprise. Il n'y avait pas trop de faillite d'entreprise parce que ces 60 milliards d'euros étaient couverts par 135 milliards de PGE. Mais aujourd'hui, on doit rembourser les PGE. Et c'est là, aujourd'hui, si vous rajoutez un coût à ces entreprises-là, peut-être que les faillites vont arriver.
Alors, vous défendez effectivement l'idée d'un bouclier tarifaire sur les transports. Je comprends absolument le raisonnement qui est le vôtre. Sauf que Clément Beaune dit clairement, si un bouclier doit avoir le jour, c'est pas moi qui le fais. C'est pas l'argent public qui va le faire, ce coup-là. C'est vous et la SNCF qui devez le mettre en place. Ouais. Donc, on voit quand même qu'on est un peu à l'os en matière de dépenses publiques pour réussir à calmer ses prix, mais il est juste que la France, avant les autres, a décidé de faire pression à la baisse sur les prix plutôt que de subventionner en direct les agents économiques, et qu'aujourd'hui, en termes d'indexation et de risque de boucle prix-salaire avec effet de second tour, on a en partie préservé l'économie française, même si le SMIC a en un an pris plus de 8%, du fait que l'inflation du SMIC est liée l'augmentation du SMIC à l'inflation des 20% les plus pauvres. Donc la hausse est un peu supérieure à celle de l'inflation. Donc si je vous dis, Christian Poyot, finalement, que les boucliers, ça a été l'assurance vie de l'économie française. C'était la phrase d'accroche de l'interview de Gabriel Attal dans Les Échos.
Moi, je trouve qu'ils n'ont surtout pas été assez ciblés, si vous voulez. Le fait, est-ce qu'il fallait en faire? Oui.
Ah, oui.
Alors, je ne vais pas redire ce que j'ai dit il y a quelques instants. Le fait, ça aurait dû être beaucoup plus équilibré entre les entreprises et les ménages. Mais est-ce qu'il fallait
en faire? On n'est pas.
Voilà. Bon. Ok. Maintenant, ils n'ont pas été assez ciblés, et je rejoins tout à fait Eric là-dessus, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, hein, c'est facile de donner des leçons autour d'un micro quand on est aux manettes, donc moi je ne suis pas en train de tirer sur le gouvernement de manière générale, mais il faut essayer donc de voir l'effet court terme et l'effet long terme, si j'ose dire. Et sur le fait des 30 centimes là, sur l'essence, moi je trouve que c'était une mesure qui n'était pas bonne, parce que...
Mais elle n'était pas bonne, Bruno Le Maire, voilà, le reconnaît.
Oui,
il a fait ça parce qu'il avait besoin. Mais parce que les LR ne votaient pas.
Oui, mais
les LR ne votaient pas le paquet de l'été. Là.
C'était pas du tout l'agent. Alors, il faut quand même...
Il a fallu leur lâcher 18... Enfin,
il y a quelque chose qu'on a tous du mal à comprendre, c'est quelque part, on est en guerre. Alors, on a toujours été en guerre économique, mais là, ça s'est quand même largement accentué. Il y a une guerre militaire. Bon, heureusement, on n'est pas directement appliqué, en tout cas indirectement, mais il faut qu'on l'ait tous en tête, et tous, autant entreprises que particuliers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus à faire des efforts et accepter de réduire peut-être un certain nombre de dépenses, etc. etc. C'est toujours difficile à entendre. Et Encore moins, bien sûr, sur les gens qui sont dans des situations très compliquées, je le comprends. Mais quand on a dit à tous les Français, quels qu'ils soient, il y a 30 centimes sur l'essence et qu'on voyait 900 km de bouchons le week-end de je sais pas trop quoi, excusez-moi, là on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête, il faut prendre les gens pour responsables. Donc, alors c'était compliqué, comme à chaque fois que vous faites ce genre de choses, parce qu'il faut prendre je sais pas quoi l'IRPP de ce site, mais au moins vous le faites et ça met dans la tête des gens que le prix de l'essence à l'heure actuelle, il n'est absolument pas au bon niveau. Donc, encore une fois, il faut arriver à trouver des mesures de court terme. Essayer encore plus de faire comprendre aux gens que oui, on est face à une situation quand même complètement atypique. Alors évidemment, on passe de solution de situation atypique en situation atypique.
C'est un peu vrai, oui.
Le Covid, la guerre, machin, etc. Bon, mais c'est la vie, hein, voilà. Et puis en même temps, raisonner moyen terme sur cette notion de transition d'environnemental qui est très importante. Voilà, donc l'exercice là. Mais le 30 centimes, c'était vraiment une bêtise. Donc est-ce que le bouclier était très bien? Oui, mais.
Clairement, hein, et ça m'a été confirmé par Bruno Le Maire, les 30 centimes, c'est une erreur économique, tout le monde le sait. Il fallait obtenir le feu vert des Républicains pour voter l'été dernier le paquet pouvoir d'achat. Souvenez-vous, ils avaient, je ne sais pas pourquoi, ils s'étaient mis dans l'idée que le litre devait être à 1,50. Et donc, pour essayer de tendre vers le 1,50, eh ben, on est passé de 18 centimes par litre à 30 centimes par litre. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans 10 jours, là, quand on va passer de 30 centimes par litre à 10 centimes.
Oui,
en plus, Total va réduire sa subvention de 20 à 10 centimes en même temps que celle du gouvernement. Ils ont décidé de caler leur agenda sur celui du gouvernement. Bon, on marque une pause. Dans un instant, vous me direz tout le bien que vous pensez du dividende salarié.
Avec plaisir.
C'est quand même un concept sur lequel a travaillé Thibault Langsat, que vous connaissez. On en a souvent parlé avec lui ici. Bon, là, Bruno Le Maire, visiblement, s'empare du sujet, mais refile quand même le bébé à la majorité. C'est pas vraiment un sujet que le gouvernement décide de tenir à bras-le-corps. En tout cas, cette question du partage du profit est en train d'arriver. Après, effectivement, il y a notre position concurrentielle ou non concurrentielle en Europe vis-à-vis des Américains et de ce que Joe Biden a fait voter l'été dernier. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Eric Ayer, il est directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, co-auteur d'une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion. Et Christian Poyot, le PDG de Micropole, président de la commission mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. J'ai cet auditeur qui s'appelle Will. C'est une bonne chose de tendre vers le partage de la réussite, mais il ne faudrait pas que ça ne concerne que les grosses sociétés de 1000 personnes. Mais tout le monde, dit-il. Donc c'est Bruno Le Maire, Christian Poyot, qui s'exprime, et encore une fois de plus ce matin, en faveur du dividende salarié. Le principe à grands traits du dividende salarié est une entreprise qui verse des dividendes à ses actionnaires, si elle peut le faire, doit également verser des dividendes, entre guillemets, à ses salariés. Dividendes, c'est pas forcément lié à la détention d'une action, ça peut être de la participation, ça peut être de l'intéressement, voilà. En tout cas, qu'il y a un partage du profit en faveur du salarié qui serait obligatoire, dans la mesure où il y a eu un partage du profit pour les détenteurs d'actions. Et donc Bruno Le Maire nous dit que c'est un grand chantier de la majorité et il y aura potentiellement, après des discussions, une proposition de loi. Qui dit proposition de loi dit que ce texte ne viendrait pas de Bercy, ne viendrait pas du gouvernement, mais viendrait bien effectivement des rangs de renaissance au Parlement. Donc ce serait une initiative parlementaire. Ce débat sur le partage du profit, comment un chef d'entreprise le reçoit aujourd'hui, avec quand même une volonté politique d'avancer sur le sujet?
Alors, je vais me permettre de rappeler un peu deux choses. Moi, j'ai été président de Croissance Plus.
Oui, même l'un des cofondateurs.
Enfin, c'est Denis Père qui est
le fondateur. Oui, c'est Denis Père.
Donc, Croissance Plus, on a toujours été pour le partage de la richesse. C'est dans le motto de Croissance Plus. On est à l'origine des BSPCE.
Bonne souscription de
part de création de l'entreprise.
Voilà. De part de création.
À titre personnel, quand Micropole a été coté en 2000, on a enfin offert, c'est pas le bon terme, mais distribué des stock options à tout le monde. Donc sur le sujet de dire est-ce qu'il faut associer les salariés au partage de la richesse, à titre personnel, je pense que j'ai pas de leçon à recevoir. Je suis bien sûr complètement aligné par rapport à ça. Par contre, moi, dividende salarié, pour moi, c'est un oxymore. Et c'est ça quasiment qui me gêne le plus, c'est que dans la tête des gens, on associe dividende et salarié. Donc, je vais faire en 30 secondes, hein, qu'est-ce que c'est un dividende? Pour un dividende, vous achetez des actions, c'est-à-dire que vous mettez de l'argent. Le salarié, il ne met pas d'argent, hein, donc mettez de l'argent. Et puis après, c'est quand même assez aléatoire, c'est-à-dire que vous avez un risque en capital, parce que votre action, elle peut monter ou elle peut descendre, d'accord? Et puis deuxièmement, le dividende, il y a des années, vous l'avez, des années, vous ne l'avez pas. C'est la règle du jeu. Et dans les années Covid, les dividendes, tant que je sache, ils ont été assez réduits. Bon. puis à côté, vous avez le salariat, vous avez un salaire qui est fixe, enfin, il peut y avoir des variables, enfin, je veux dire, qui est acquis, quoi qu'il se passe, enfin, sauf catastrophe de l'entreprise. Vous voyez, donc on compare des choses qui n'ont rien à voir. Donc de dire qu'on parle de dividende salarié, c'est comme de la croissance négative, vous voyez, c'est un
peu. Oui, c'est voilà. Un terme de croissance
et,
négative.
Et donc, on est dans des. Comment dire, je pense que nos auditeurs sont évidemment au fait avec ce genre de choses, mais mettez dans l'état d'esprit des Français, le gars qui touche dividende, c'est comme s'il touche un salaire, c'est-à-dire le touche systématiquement, quoi qu'il se passe. Est-ce qu'il a vraiment idée qu'il a mis de l'argent sur le sujet et qu'il y a des années il touche zéro et des années il touche un? Donc on introduit une faille dans le raisonnement global des Français. Le dividende, c'est comme le salaire. Ben non, c'est pas comme le salaire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc moi, l'expression dividende salarié, et Thibault Langsade est un ami, je lui ai déjà dit, pour moi, c'est vraiment une erreur d'utiliser ce terme-là.
C'est un peu du marketing, on est d'accord.
Oui, mais si vous voulez.
Je
pense que, et qui ailleurs me conduira pas en disant que le niveau de compréhension économique des Français est perfectible, on va dire ça comme ça. Et donc, utiliser ce terme-là ne fait qu'embrouiller les choses et compliquer d'avoir un raisonnement structuré. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut que les entreprises, comment dire, peut-être aille plus loin sur la notion de partage de la valeur, des résultats, etc. Oui, certainement. J'ai commencé à dire que, à titre personnel, croissance plus, etc. Et le MEDEF est aussi aligné avec ce genre de choses. Donc, augmenter logique d'intéressement, de participation. Au passage, diminuer les taxes que l'État se prend au passage. Hein. Alors, il a commencé à le faire, mais sinon, c'était un peu je donne quelque chose et hop, monsieur l'État.
Et le forfait social qui avait vu le jour avec Nicolas Sarkozy, puis qui a été réduit petit à petit.
Donc,
notamment par la loi PAC.
Pour essayer de résumer tout ça, est-ce qu'il faut arriver à dire. On associe les salariés à la croissance, à la richesse d'entreprise. Oui, mais surtout, n'utilisons pas ce mot dividende salarié, ne comparons pas des choses qui n'ont strictement rien à voir.
Et l'idée que ce partage du profit, je vais faire réagir Eric sur l'analyse sémantique, vous avez raison de la faire, sur l'idée que ce serait obligatoire. Parce que s'il y a proposition de loi, vous imaginez bien ce que la loi va prévoir. Oui, pas dire, si vous êtes bien luné, faites comme vous voulez, mais si vous avez une bonne année...
Oui, typiquement, on rejoint sur le sujet. Dividende, tout le monde pense CAC 40, alors Total, qui est malheureusement l'entreprise, le grand méchant et compagnie.
Mais le dividende,
c'est aussi le gars qui a une petite boîte qui a 10 personnes et qui souvent ne se paye quasiment pas, voire rien du tout, et qui, c'est à la fin de l'année, je vais le faire, il ouvre le tiroir caisse, il regarde ce qu'il y a, il serre un peu dedans. Et croyez-moi, je l'ai connu, moi, à titre personnel, quand j'ai créé ma boîte à 2 personnes.
Ça veut dire se payer en dividende.
Vous payez en dividende, vous payez vraiment le minimum, puis vous regardez ce que l'entreprise, à la fin, et ce qui reste, et vous prenez un peu, pas la totalité. Déjà, l'État en prend un tiers, au passage, quand même, ou 25% maintenant, et vous voyez ce qu'il y a. Donc, le rendre obligatoire, les cas des entreprises sont tellement différents. On compare des choux et des carottes. Voilà. Donc, après, le chef d'entreprise qui réfléchit un peu par court terme et moyen terme, il se dit de toute façon, l'année où je fais beaucoup de profit, effectivement, partageons et donc mes salariés parce qu'ils vont être fidélisés, ils vont être motivés, etc., etc. Mais les choses obligatoires, c'est comme les 35 heures, mais je ne vais pas me lancer là-dessus. On applique les 35 heures autant à un ingénieur. En high-tech chez Micropole que le monsieur ou la madame qui est caissière agent de caisse chez Carrefour. C'est une absurdité pour ne pas dire un mot beaucoup plus vulgaire.
Bon, on va pas refaire les 35 heures.
Je m'arrête là parce que...
On va pas refaire les 35 heures. Je ne sais pas comment vous voulez réagir, Eric, mais je trouve que l'explication sémantique mérite effectivement qu'on s'arrête 2 secondes, parce que le choix des mots est très important. À chaque fois qu'on a un débat où on a des débatteurs plutôt un peu hostiles à l'économie de marché, au capitalisme, c'est toujours à la fin la dernière accroche d'hostilité absolue, c'est le mot dividende. Et l'actionnaire est présenté effectivement... Enfin, j'ai entendu récemment Olivier Besancenot, chez mes confrères de France 8 ou France 5, nous expliquer qu'en prenant les dividendes de Total, si on divisait les dividendes de Total, voilà combien de centaines d'euros on pouvait donner par salarié dans le monde entier du groupe Total. Comme s'il y avait cette idée que chaque euro qui est versé à un actionnaire est un euro qui normalement devrait aller aux salariés. Et donc chaque euro qui est versé à un actionnaire, c'est un euro que le salarié aurait presque en moins dans le raisonnement d'hostilité aux dividendes.
Capitaliste de base.
Sans compter que la plupart ignorent que lorsqu'on donne un dividende, la valeur de l'action baisse à peu près du même montant. C'est pas... une étrenne, quoi. C'est juste une partie de la valeur de l'action qui est monétisée à un moment de l'année dans la mesure où c'est possible. Le débat sémantique, Eric.
Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que j'ai entendu. C'est-à-dire qu'effectivement, le mot dividende, vous l'avez rappelé, il plaît pas. Donc on a l'impression que si on met salarié, ben ça va plaire et ça va légitimer le mot dividende pour les... Non, je pense que, enfin, le débat est pas là. Je suis d'accord avec ce que j'ai entendu. Le débat, c'est est-ce que le partage est bien le bon entre, d'un côté, ce qui va aux salariés et ce qui va aux actionnaires? C'est plutôt ça la bonne question. Et moi, je pense qu'en plus, quand vous regardez ça de façon très macroéconomique, bon, il y a Bon, il y a un partage qui est relativement... Enfin, en tout cas, il y a un point d'équilibre. Je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, c'est assez stable dans le temps. Il faudra faire attention avec les années Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est encore pas très bien stabilisé en termes de statistiques. Mais allez, on va dire que les 15 ans avant, bon, c'était stable. On aurait pu peut-être augmenter d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, c'est assez stable. Et je pense que s'il y a un problème, c'est à l'intérieur des salaires ou à l'intérieur des dividendes. C'est-à-dire, je pense que macroéconomiquement, on a un point d'équilibre, mais par contre, les salaires, d'accord, ne sont pas distribués de façon équitable dans la distribution.
C'est-à-dire que,
vous voyez, si vous augmentez très fortement les salaires des personnes très élevées, vous voyez, et pas ceux de très bas, bah vous allez dire bah la masse salariale n'a pas bougé, mais par contre il y aura à l'intérieur des salariés ceux qui auront bénéficié énormément de la valeur ajoutée et ceux qui n'auront pas bénéficié de la même manière dans les dividendes entre les grands groupes, les petits groupes. Donc je pense qu'il faut regarder à l'intérieur, donc de la masse salariale. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas une polarisation des salaires, vous voyez, entre d'un côté, vous voyez, ça c'est une grande thématique de recherche aujourd'hui. C'est il y a aujourd'hui on crée que des emplois soit peu qualifiés, soit très qualifiés. Et donc, il y a soit des salaires très élevés, soit des salaires pas élevés. Et donc, du coup, la masse salariale, vous pouvez dire, bah, tout va bien, même le salaire moyen ne progresse pas trop, mais en fait, avec des salaires qui stagnent en bas et des salaires qui progressent très vite en haut. Bon, ça peut être ça, la vraie question. Ou alors, vous voyez, si je fais de la théorie économique, je dis, de toute manière, les salaires doivent progresser comme la productivité marginale. Mais vous voyez, une fois que j'ai dit ça, normalement, je dois être un peu honteux et me taire. Qu'est-ce que ça veut dire, la productivité marginale? Est-ce qu'on est capable, nous, aujourd'hui, de dire quelle est notre productivité marginale? Non. Vous voyez, et la Covid a bien révélé cela. Vous voyez que ce qu'on appelle les emplois de seconde ligne, bah, ils ont, dans la théorie économique, une productivité marginale très faible, donc un salaire très faible. Or, on s'est rendu compte qu'ils étaient très utiles, donc et que sans eux, on aurait vraiment beaucoup plus mal passé cette période. Et donc, vous voyez, dire aujourd'hui, c'est stable, et parce qu'on est payé à la productivité marginale, bah, c'est juste parce qu'on a fait un petit travail intellectuel, bon, avec des petites hypothèses, mais en fait, on n'a pas dit grand-chose. Je pense qu'il faut revoir, moi, à mon avis, si on doit revoir sur le partage de la valeur ajoutée, c'est plutôt au sein des entreprises, est-ce qu'on paye vraiment bien à l'utilité marginale? Enfin, mais encore une fois, là aussi, je vais être honteux parce que je ne sais pas bien plus déterminer l'utilité marginale que la productivité, mais c'est peut-être ça. Et vous voyez, toute la question avec le grand patron, etc. Est-ce que un salaire 300 fois supérieur au SMIC, est-ce que ça se justifie d'un point de vue de la productivité marginale? Sans doute pas.
Je suis d'accord.
Sans doute pas.
Quelqu'un qui est payé 6 millions ou 4 millions,
alors,
il fait le même boulot.
Alors, c'est un cas isolé, d'accord, mais vous voyez, mais c'est plutôt, moi, je pense que c'est à l'intérieur de la masse salariale où on devrait essayer de savoir est-ce qu'on la partage bien. Ou à l'intérieur des dividendes, est-ce que, vous voyez, si c'est stable, mais que c'est quelques grands groupes qui prennent tous les dividendes et les petites entreprises qui n'ont rien, bon voilà, on peut dire. Et donc, moi je pense que les salariés, on devrait plutôt les intéresser, non pas d'un point de vue financier, mais plutôt d'un point de vue, pas des décisions, mais en tout cas de l'explication des décisions. Et donc, s'ils étaient là, vous voyez, comme en Allemagne, dans les conseils d'administration, où là, c'est obligatoire. Et donc, je suis d'accord qu'il ne faut pas toujours faire des choses obligatoires, mais sur les 35 heures, justement, me semble-t-il, en tout cas, c'est ma vision, il y avait des accords d'entreprise où on pouvait redéfinir ce qu'on appelait temps de travail, etc. Donc, au sein des entreprises, on pouvait redéfinir le temps de travail. C'est comme ça qu'on a mis un peu de flexibilité dans cette règle qui était effectivement très rigide. Mais là, se dire peut-être que ce qu'on peut rendre obligatoire, c'est de bien expliquer aux salariés la stratégie, pourquoi les dividendes, à quoi ça sert, et est-ce qu'il y a bien une stratégie à 5 ans, 10 ans, et peut-être que pendant 5 ans, 10 ans, c'est important de faire des dividendes parce qu'il va falloir faire de l'investissement, mais associer le salarié aux décisions, pas lui demander forcément de prendre la décision, mais qu'il comprenne bien. Et vous allez voir que d'un coup, on comprendra mieux le salaire du cadre, le salaire du grand patron et le salaire de l'actionnaire qui est un dividende. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'on doit faire la pédagogie plutôt que de
la fameuse. La fameuse cogestion. Moi, je me rappelle ce qu'avait dit Sylvain Réby des Técousmi. Moi, je veux bien faire de la cogestion, mais donnez-moi les syndicats allemands pour
oui,
le faire.
Hein. Oui, alors voilà. Moi, bon, je voudrais réagir par rapport à ça. Parce
ça a été un vrai sujet. Je rappelle juste qu'il était question dans la loi Pacte d'aller jusque-là et on n'est pas allé jusque-là.
Oui, mais attendez, moi, je voudrais dire quelque chose. Je connais un peu l'Allemagne, pas à fond, donc voilà. Mais le fait de dire que les syndicats allemands dans la cogestion, mais ils sont les grandes entreprises allemandes. Hein.
Oui, oui.
Dans le Mittelstand, ça n'existe quasiment pas. Oui, mais c'est quand même le rappeler. Hein. Le Mittelstand, c'est le cœur du réacteur allemand. Et ça, pour le coup, on a des logiques d'acquisition en Allemagne, etc. Je veux dire que ça n'existe pas. Donc le fait de dire que les Allemands, c'est de la cogestion, c'est un petit peu faux. Voilà. Bon. Et puis, deuxième remarque, quand vous avez en face de vous Sud, bon, on peut essayer de faire la cogestion, enfin, ça va être un peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire, pour les choses très clairement. C'est les gens qui sont anticapitalistes, qui l'expriment très clairement, donc je vois pas où est la marge de négociation. Voilà. Donc,
Après, vous constaterez que les syndicats les plus durs, souvent en accord d'entreprise, généralement, votent oui.
C'est-à-dire qu'il y a quand même
même 80... la CGT.
Ouais, c'est ça. Voilà. Même la CGT a voté 85% quand même des décisions. Donc,
ok, mais après, dans l'opinion publique, dans l'expression générale, oui. C'est-à-dire le système libéral, il faut le mettre à bas, etc. Et on voit bien les discours qui se radicalisent. Donc, j'ai jamais entendu ça dans la bouche des syndicats.
En tout cas, voilà. Christian Poyeux, si d'aventure une proposition de loi commence à se dessiner sur le partage du profit en France, je pense qu'il faudra faire un peu de lobbying.
Oui, ne vous inquiétez pas. Ouais. pour le coup, il ne s'agit pas que le marché est parfait. Hein, qu'il faille de la régulation, bien évidemment, mais si on laisse agir les entreprises. Le sujet de dire, par exemple, les salaires, enfin les métiers qu'on considère comme peu valorisés, comme dans le commerce ou les restaurants, etc., etc. Bah, là, c'est vrai qu'on s'aperçoit que si on les a pas, le restaurant, il tourne pas. Donc l'équilibre, il se retrouve. Hein, le gars qui gère un bar, un restaurant, il se dit, bah, si j'ai pas les bonnes personnes, déjà, j'ai personne, donc là, je fais rien. Puis si j'ai pas la bonne qualité, j'attire pas mes clients. Donc de toute façon, il augmente ses salaires.
Alors,
il
va augmenter. C'est ce qui s'est passé dans la restauration.
Prix, mais voilà. Donc, ça, mais laissons un petit peu agir les entreprises. Je ne dis pas encore une fois surtout dans tous les sens, soyons clairs, mais il y a quand même c'est le dispositif vertueux de dire associons les gens, et si on les associe, de toute façon, l'entreprise va aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort.
Vous voulez réagir,
oui, parce que vous voyez, tous les caissières, les caristes, ils n'ont pas eu le choix pendant la Covid. Vous voyez, on a tous tenté de faire du télétravail, on s'est mis en chômage partiel, mais eux, on ne leur a pas laissé le choix. On a dit, ben non, si vous n'êtes pas là, ça ne tourne plus. D'accord ? Et leur salaire, vous voyez, c'est à peu près 1,2 fois le SMIC, pas plus. Enfin, c'est ça le salaire moyen de ces salariés de seconde ligne. Vous voyez, on a augmenté le SMIC de 8%, vous l'avez rappelé. Ben, qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Ils sont passés de 1,2 à 1,12. C'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés du SMIC parce qu'il n'y a pas eu cette diffusion de ces 8%.
Pas eu du tout d'un petit effet d'entraînement.
Il y a un tout petit peu... Alors, on le verra encore une fois là. Oui, c'est vrai que je parle, mais habituellement, quand il y a une augmentation du SMIC, d'accord, à partir de 1,3 fois le SMIC, il n'y a plus rien. Oui. D'accord ? Et c'est à peu près. Donc, à 1,2, il ne doit pas avoir grand-chose si c'est comme d'habitude. Alors, peut-être que ce ne sera pas comme d'habitude cette fois-ci, mais vous voyez, c'est pour ça que dire augmenter le SMIC, c'est important pour le bas, mais attention, s'il n'y a pas de diffusion, d'accord ? Alors, eh ben, globalement, ceux qui ont devait faire quelque chose pour eux, ils vont se sentir encore plus smicard et encore plus déclassé. Alors qu'il me semble qu'on a eu un président qui a dit bah, il va falloir ne pas oublier le rôle de ces salariés-là. Bah, je crois que bah, malheureusement, bah, ça nous a un peu rattrapé cette crise. Parce que, vous voyez, c'est un peu ça le problème de l'inflation. On a oublié ce que c'était l'inflation. Et l'inflation, c'est un gros conflit de répartition. Dès qu'il y a une inflation, il va falloir qu'on se répartisse, c'est ce qu'on a dit en première partie, et ben, ce fardeau. Et bah, malheureusement, on n'a pas tous la même, on a le rapport de force au sein de l'entreprise pour dire, bah, voilà, attention, moi je m'en vais ailleurs ou il va falloir que tu m'augmentes. Et donc c'est ce rapport de force. Bah, de temps en temps, bah, c'est bien que soit l'État s'en mêle de temps en temps, c'est vrai, pour essayer de répartir. Soit ça veut dire que on fait des aides pour tout le monde et qu'on reprend par la fiscalité. Vous voyez, alors je suis désolé, je reviens un peu au débat tout à l'heure sur bien sûr que c'est mieux des aides ciblées, mais c'est très compliqué. Vous voyez, on va pas faire une aide si on fait une aide ciblée pour les SMICards, mais pas pour, pourquoi pas pour le 1,2 fois le SMIC et ou le 1,3. Vous voyez, il y a des effets de seuil. On déteste ça. Pareil pour les entreprises. Est-ce qu'on aide une petite ? Donc le plus simple entre nous, c'est de faire des aides généralisées. Mais après, on se dit, oui, mais alors, donc, du coup, pourquoi toi, t'as bénéficié alors qu'il n'y avait pas le droit? Eh ben, il y a la fiscalité. Pour en partie reprendre des aides qui étaient un peu indues. Il faut l'expliquer comme ça, l'effort qu'il fallait faire pour la guerre. Oui. Ben, l'effort pour la guerre, c'est, t'as eu droit à tes 30 centimes, en fait, t'avais pas besoin. Eh ben, je te les reprends par la fiscalité.
Moi j'ai une autre idée. Hein. Si on alignait la fiscalité des entreprises françaises sur la fiscalité des entreprises européennes, ce serait peut-être pas mal, ça non plus, comme solution. Hein.
Non, mais ça, c'est structurel. C'est structurel. Mais, vous voyez, là, il y a eu des aides qui ont été données. Covid, on n'a pas ciblé. D'accord. Énergie, on n'a pas ciblé et on veut aujourd'hui le rembourser par du ciblage. C'est-à-dire comment on va essayer de rembourser là, en tout cas les pistes que j'ai entendues, c'est réforme de l'assurance chômage, d'accord. Ah oui, mais alors là, donc on ne fait payer que des chômeurs ou des personnes qui sont en bas, et réforme des retraites par l'âge à que des personnes qui ont commencé à travailler tôt. Donc là, on dit on a fait des aides pour tout le monde, mais on va faire du remboursement ciblé sur des catégories qui ne sont pas non plus
ceux qui vivent le mieux en France. Attention au conflit social qui va arriver si vous le dites comme ça. Et donc, se dire on va jamais toucher à la fiscalité, moi je pense qu'aujourd'hui, comme on a fait des aides ponctuelles, il faudrait faire un impôt ponctuel pour dire, bah oui, et c'est comme ça qu'on fait le ciblage. Mais ouais. Après, je suis d'accord avec vous qu'il y a un risque.
C'est sûr, Eric, que si on présente la réforme de l'assurance chômage et des retraites comme vous venez de faire, c'est juste inaudible.
C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire en disant, voyez comment on fait pour être crédible vis-à-vis de nos partenaires.
Je suis d'accord.
Et ben, c'est par la réforme des retraites et l'assurance chômage. Parce qu'il n'y a pas d'autre, aujourd'hui, piste pour rembourser ces aides colossales, hein. Encore une fois, c'est plus de 200 milliards d'euros qu'on a.
On pourrait réduire le train de vie de l'État un peu aussi globalement, quoi.
Oui, voilà. Vous pouvez le faire.
C'est aussi le plus élevé. La ponction, ce qui existe sur les entreprises françaises est nettement supérieure à celle de nos petits copains européens. La ponction de l'État est également la plus importante. C'est le sujet qu'on met jamais sur la table.
Vous êtes sur un débat structurel. Oui, imaginons qu'il n'y ait pas la crise de la Covid et la crise énergétique. On aurait pu avoir. Est-ce qu'on peut pas réduire le train de vie pour réduire la pression fiscale? Mais là, on a rajouté 200 milliards. Ces 200 milliards, comment on les finance? Puisqu'il y a eu des aides qui ont été données à des entreprises comme CGM qui faisaient des bénéfices, on peut dire bon, mais ça, ils n'avaient pas besoin. Comme on a fait des aides à des salariés qui n'avaient pas besoin de cette aide-là, ben on peut dire, ben, on peut potentiellement reprendre ces aides qu'on a données de façon indue parce qu'il fallait aller vite. On les reprend par la fiscalité, mais on vous assure que cette fiscalité, elle est du one shot.
Mais
c'est important.
Voilà le sujet.
C'est pour ça que je pense qu'il faut l'appeler Ukraine.
Pour ça que le sujet structurel, il est trop important. C'est ce qu'on n'arrive jamais à faire suffisamment en France. Le structurel, c'est à 5-10 ans. Quelle est la ligne générale, globale, de s'aligner, notamment sur cette fiscalité vis-à-vis des autres entreprises. Qu'on fasse des mesures ponctuelles qui sont sur 2-3 ans, hein, ponctuelles, pourquoi pas, ça peut s'entendre, mais quelle est la ligne structurelle? Et moi, je ne la vois pas, la ligne structurelle. Sur ce sujet-là, on s'améliore très très peu.
Bon, en tout cas, depuis le début, on a toujours dit que tout se paie. On est bien d'accord. Et effectivement, ça fait partie des éléments d'équilibre. Après, c'est vrai que des réformes qui rapportent des gros milliards par paquet, il n'y en a pas 25. Hein. Oui. C'est quand même vous qui nous avez souvent décrit les différences de dépenses publiques en France par rapport aux autres pays. 8 points, dont 4 de retraite.
Combien coûte la retraite? Vous voulez encore une fois ce débat de dire tous les autres pays européens sont à 65, 67 ans, ou 67, etc. Et nous, on dit, mais on n'y sera jamais. Mais pour moi, c'est tellement... Mais c'est surréaliste. On est dans un monde...
On ne doit pas dire ce que nous coûte les retraites, parce que la retraite, je vais juste le dire, c'est un transfert, d'accord. On va prendre à des actifs pour donner à des inactifs retraités.
Oui, on est bien d'accord.
Ça coûte rien aux finances publiques normalement, parce que c'est équilibré. Il faut que ce que je prends aux salariés, aux entreprises, je le redonne le même montant.
Normalement, c'est équilibré. Et
donc c'est équilibré. Il n'y a pas de coût. De ce point de vue-là, pour les finances publiques. Alors après, vous allez dire, si il y a un coût pour l'entreprise,
c'est ce que j'ai dans l'entreprise.
Ah non, mais d'accord. Ouais, mais ok. Mais c'est pas un coût budgétaire, d'accord.
Okay, mais en termes de compétitivité,
Ok, mais alors là, il y a des études qui sont. Après, tout est. On fait pas des sciences exactes en économie, hein, donc tout est critiquable. Mais des études, notamment de l'IPP. Qui montre que quand vous augmentez les cotisations retraite, d'accord, ben ça fait baisser le salaire globalement en dynamique. Ça fait des salaires qui sont moins dynamiques dans la suite.
Ah mais
et ben du coup le salaire brut n'a pas forcément augmenté parce que vous avez augmenté les cotisations,
C'est pas une bonne chose parce que si les salaires n'augmentent pas, les gens n'ont pas assez de pouvoir d'achat et
c'est pas exactement ça. C'est que c'est bien perçu quand c'est les cotisations retraite, c'est bien perçu comme un salaire différé. C'est le résultat de leur étude en disant, ben non, mais en gros, c'est quelque part une assurance pour ma retraite. Je n'ai pas besoin, là, de cotiser parce que si on me baisse ma cotisation, je vais devoir demander des salaires plus élevés parce qu'il va falloir que je cotise, dans un fonds de pension, etc. Donc, en gros, le salaire brut n'a pas forcément augmenté. En revanche, si c'est pour la famille, admettons les cotisations famille ou maladie, là par contre, c'est un coût pour les entreprises directes. Donc, vous voyez, dans les cotisations, il y a ce qui est du salaire différé et ce qui est de pas comme la famille. Et donc, en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est sortir les cotisations famille, sortir les cotisations maladie, d'accord, mais on peut garder les cotisations retraite et se dire que c'est un coût, en fait, c'est pas ce que nous dit exactement les études.
Deux remarques, encore une fois, sur cette histoire de...
On a 4 minutes, j'aurais bien voulu qu'on dise un mot de la voiture électrique. C'est passionnant d'écouter cette histoire, parce qu'on rentre dans la complexité de l'histoire.
Moi, je fais un raisonnement de base, comment se fait-il que les autres sont à 67 et que nous, on n'est pas sur 64. Intellectuellement, on n'arrivera jamais à me faire comprendre ça, d'accord. Et
puis pour faire un choix de société.
Oui, je sais bien, mais enfin, le souhait de société, on le paye à un moment donné, y compris sur le poids sur les salaires. Enfin, oui. C'est la compétitivité de l'entreprise, donc pour aller vendre à l'extérieur également sur les salaires. Donc, faut arrêter de pleurnicher en permanence. On peut pas tout avoir, quoi, si j'ose dire. Et la trajectoire globale sur la vision de dire comment on réduit ce poids de l'État, et donc on a une compétitivité qui revient simplement au niveau de nos petits copains européens. On n'y est pas pour l'instant, et je ne vois pas la démarche structurelle. Alors, la voiture électrique.
Oui, alors la voiture électrique. Thierry Breton est le premier qui met les pieds dans le plat. Alors,
et oui, il a raison.
Les commentateurs, moi le premier, on a tous expliqué le côté complètement folie douce de vouloir dès 2035 stopper intégralement la vente des voitures thermiques. Carlos Tavares l'a fait il y a plusieurs mois dans une interview incroyable, je ne sais plus où c'était, il expliquait qu'on avait, oui, les échos, on s'était jamais posé la question de savoir si l'hybride ou même les nouveaux moteurs diesel n'étaient pas plus intéressants à mettre en avant que la voiture électrique. Et donc Thierry Breton dit attention, danger 2035, nous posons-nous vraiment des questions pour savoir s'il faut y aller à cette date-là.
Mais alors, là aussi on joint le court terme et le moyen terme, le structurel, long terme. Est-ce qu'il faut d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, qu'on arrête les voitures thermiques? Mais oui, c'est évident, parce que ça pollue. Enfin, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Une fois qu'on a dit ça, dans quelle échéance de temps et comment on se place du point de vue concurrentiel par rapport à nos petits copains? Alors déjà, au passage, moi, je ne suis pas un fanat de la voiture électrique. Je pense que c'est l'hydrogène qui sera la vraie solution. Quand on regarde le schéma de pollution de la voiture électrique, plus la dépendance par rapport aux pays sur les terres rares et compagnie, c'est vraiment, enfin, je ne dis pas n'importe quoi, mais c'est quand même à se taper la tête contre les murs. Donc, est-ce que la cible, enfin, est-ce que la trajectoire est la bonne? Mais après, quelle est la pente, si j'ose dire? Et là, l'Europe, une fois de plus, fait preuve de naïveté totale. Moi, je ne sais pas.
Il y a eu un traumatisme Volkswagen.
Je ne mets pas en doute la bonne foi des députés européens, etc. Encore une fois, je suis d'accord sur le fond avec eux. Mais ils ont regardé la réalité des choses, essayé de faire une planification à 10, 20, 30 ans, de dire quels vont être les concurrents, comment on va vendre, comment on va se fournir, quel va être le circuit, etc. On a fait ça. Ah, bah, c'est bien, il faut y aller, allons-y. Et puis, ça suivra, l'intendance suivra. Mais là, si ça ne change pas, on va aller dans une catastrophe. Autant du terme du nombre d'emplois supprimés, de la dépendance par rapport à, encore plus par rapport aux autres pays, de l'invasion qu'il va y avoir des pays, notamment chinois, sur la voiture électrique.
Une vente sur deux
chinois aujourd'hui. On va tuer notre piste de vente des voitures thermiques, notamment à d'autres pays. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, heureusement, Thierry Breton met les pieds dans le plat. Je vais voir ce qui va se passer. Mais voilà. Encore une fois, sans remettre en cause la trajectoire globale, bien évidemment.
Un mot là-dessus, Eric, peut-être pour terminer. On a une 20, hein. On n'ira pas bien loin, mais...
Non, mais enfin, oui, effectivement, ce qui est très important, et l'urgence, c'est d'émettre de moins en moins de CO2. Et donc, on aurait dû, effectivement, plutôt avoir un objectif... Enfin, on l'a, hein, cet objectif. Et après, se dire, mais comment on y arrive à cet objectif? Est-ce que le thermique peut aider à arriver à cet objectif? Alors, on parle de nouvelles normes, et passer à 0,7, etc. Et je pense qu'effectivement, on pouvait être le leader, nous, Européens, ou les constructeurs de moins d'émissions de CO2, avec du thermique. Ça, c'est possible, et qu'on fasse les deux. Ça, je pense qu'effectivement, de manière, c'est un peu ce que dit Thierry Breton. C'est-à-dire que globalement, on arrêtera potentiellement de vendre au sein de l'Europe, mais puisque un grand nombre de continents n'auront pas les bornes nécessaires, on continuera à vendre du thermique ailleurs. Et il faut vendre du thermique qui émette pas de CO2 aux autres pays. Donc je pense que, de toute manière, on ira vers les deux. Hein, c'est-à-dire qu'on fera à la fois du thermique et de l'électrique. Et ensuite, quelle est la date où on arrêtera complètement, ça je pense qu'il y a encore du débat, mais on fera les deux, encore une fois, pendant au moins 50 ans.
Merci à vous deux d'avoir été là pour décrypter l'actualité économique avec moi, Eric Ayer aujourd'hui, Christian Poyot, on se retrouve demain à 9h.